Alors aujourd'hui, vous êtes présent pour écouter Alain Berenbaum et les aventures de son détective privé, Michel Van Loo. Alors souvenez-vous, on avait fait sa connaissance de ce détective il y a quelque temps dans le Bruxelles d'après-guerre. Il était à la recherche d'un fonctionnaire des affaires étrangères qui avait disparu. Et aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons ce fameux détective Michel Van Loo. Alors on va débuter la rencontre par le début du livre, histoire de camper l'atmosphère. Nous ferons également une autre lecture au cours de la rencontre. Et donc, nous allons nous partager le micro dans cet échange. Alors, Alain Berenbaum, je vais peut-être tenir le micro durant la lecture. Et donc, merci à vous de nous rejoindre et de faire le silence. Comme Alain Berenbaum me dit, chouette, j'ai un boy, donc on capte l'atmosphère de l'époque. Voilà.
Oui, pas seulement de l'époque, mais enfin bon. Donc, cette nouvelle aventure de Michel Van Loo, qui l'amène au Congo belge en 1948, commence dans son misérable bureau de détective privé qui est au fin fond de Schaerbeek. Mais il va en partir très rapidement donc pour descendre dans la province la plus au sud de Belgique. Et il se trouve dans son bureau et c'est comme ça que commence le livre. L'Afrique, je croyais la connaître, j'avais dévoré les aventures de Tintin au Congo. Mais les trois noirs assis devant moi eurent vite fait de me détromper. Où étaient passés les braves garçons en pagne, souriants et respectueux, qui s'inclinaient devant le petit reporter belge et son chien, en l'appelant humblement Boana. Depuis qu'ils avaient mis les pieds dans mon bureau, ces trois gaillards n'arrêtaient pas d'échanger des remarques désobligeantes en contemplant mon local d'un air consterné, et quand j'ouvrais la bouche au lieu de m'écouter, ils s'interrogeaient ouvertement sur mes capacités de détective privé. Non, messieurs, ces gars-là ne ressemblaient en rien au bon nègre de Tintin. Oh non ! Hergé avait-il trompé ses lecteurs ou ne connaissait-il rien aux nains ? Car, et j'oubliais de le préciser, mes noirs étaient des nains, trois nains bavards et arrogants, surtout le troisième, une femme, semble-t-il, mais je n'oserais le jurer. Quel est votre tarif ? Demanda-t-elle d'un ton suspicieux. Ma réponse la laissa perplexe. Son regard fit le tour de la pièce. Eh bien, soupira-t-elle à ce prix-là, je comprends que la clientèle soit rare. Disons que je n'investis pas ma fortune dans la décoration, si c'est ce qui vous préoccupe. Les nains secouèrent gravement la tête et ils se mirent à parler entre eux dans leur sabir, m'ignorant une fois de plus, ce qui me laissa un peu désemparé. Pourtant, des nains, j'en ai connu. Un clown de cirque m'a chargé de filer la femme au but et un petit banquier d'espionner ses subordonnés pour vérifier s'ils se moquaient de lui. Mais trois nains à la fois et congolais, jamais, non jamais.
Voilà, donc ainsi débute la nouvelle histoire de Michel Van Loo. Donc comme vous l'avez entendu, on est au Congo. Alain Berenbaum, pourquoi le choix du Congo? Oui, là on est à Schaerbeek avant d'arriver au Congo. J'anticipe déjà puisque j'ai lu le livre. Pourquoi le choix du Congo? Est-ce que justement, vous avez cité Hergé, est-ce que les aventures de Michel Van Loo, ça va être comme dans Tintin au pays du Congo?
Ce serait bien, en effet. Enfin, sauf que je pense qu'il y a un peu plus de distance, sans doute, que celle que pouvait avoir Hergé en 1930, je crois, lorsque il a publié la première version de Tintin au Congo. Donc, c'est peut-être Tintin au Congo, mais l'innocence en moins. Quand j'ai terminé la première aventure de Michel Van Loo, qui s'appelait donc Péril en ce royaume et qui se déroulait en 1947 à Bruxelles, l'année précédente, exploration de la Bruxelles, de Bruxelles de l'immédiate après-guerre, de la Belgique qui commençait à être fissurée, le conflit de la question royale et un certain nombre d'autres problèmes qui déjà inondaient la Belgique. J'ai eu au fond un goût trop peu, j'ai pas eu envie de lâcher mon détective, ni la Belgique. Et je me suis dit que j'avais encore bien des choses à dire sur la Belgique de l'époque. Et bon, la Belgique de l'époque, c'est le Congo belge. Terre rêvée. Et donc, j'ai trouvé que tout naturellement, Michel Van Loo allait s'embarquer là. Tout aussi incompétent d'ailleurs que dans Péril en ce royaume, parce qu'il faut bien dire que c'est un polar, mais avec un très mauvais détective privé. C'est prévenir autant les lecteurs. C'est un très mauvais détective privé.
Mais justement, est-ce que vous avez créé, je dirais, le Colombo à la sauce belge, puisqu'un peu c'est la figure de l'anti-héros, et c'est sans doute ça qui le rend attachant, votre détective, justement?
Oui, sauf que Colombo s'en tire parce que sous ses dehors de Snotneuse, il est en fait un très bon détective.
tandis que Van Loo reste un très mauvais détective, même si il donne l'illusion et il travaille beaucoup. Mais heureusement, dans Péril en ce royaume, il est entouré d'une bande de copains qui vont l'aider, son coiffeur italien, surtout sa petite amie champouineuse qui s'appelle Anne, un pharmacien, Hubert, etc. Et dans ce roi du Congo, c'est un peu le même truc, sauf qu'au lieu d'être aidé évidemment par des Belges, il est aidé là par un certain nombre de Congolais, dont les trois nains que je viens de vous présenter, qui dans la suite du roman d'ailleurs sont baptisés Pim Pam Poum, en référence à une bande dessinée d'avant-guerre célèbre. Bon, et Pim Pam Poum, plus un certain nombre d'ailleurs d'autres indigènes, vont considérablement faire en sorte que Van Loo ait l'air d'un détective normal.
Alors justement, ces trois nains, ce seront ses yeux, ses mains. On les a entendus, ils viennent le voir dans son bureau à Scarbeck. D'où vous êtes venu justement cette idée de trois nains? Justement, vous avez cité une bande dessinée. C'est votre amour de la bande dessinée?
Oui, c'est que j'aime bien dans le roman le côté, dans les romans que j'écris, j'aime bien le côté virevoltant, humoristique, parodique. Et donc, j'aime bien introduire ainsi des personnages un peu loufoques qui égaient l'action, dans lequel les lecteurs, qui sont aussi mes plaisirs de lecteur. C'est vrai que j'ai un grand amour de la bande dessinée, j'aime bien Tintin, j'aime bien les pieds nickelés, donc c'est sans doute ce type de personnage-là qui se retrouve là, mais auquel j'espère donner corps, et finalement, les premiers lecteurs avaient l'air de se retrouver tout à fait dans Pim Pam Poum, et de ne pas les considérer justement comme des personnages de bande dessinée, mais comme des vraies personnes, ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être en tout cas.
Alors évidemment, ce n'est pas évident pour votre détective de se retrouver au Congo. C'est la première fois qu'il quitte Bruxelles. On est dans les années 48. D'autant plus que finalement, vous expliquez que l'amour de l'Afrique, ça ne se donne pas facilement, ne se découvre pas d'un clin d'œil comme le Mannequin Peace. Mais c'est vrai aussi que c'était peut-être plus facile le Bruxelles d'après-guerre, dans les premières aventures de Michel Van Loo. C'était peut-être plus proche de nous que le Congo aujourd'hui, 60 ans plus tard.
Oui, sauf que j'ai fait au fond dans Péril en ce royaume, je faisais de manière implicite référence à la Belgique d'aujourd'hui, rien que le titre Péril en ce royaume, c'était évidemment déjà un clin d'œil à la situation belge actuelle, ou en tout cas au moment où le roman a été écrit. Le roi du Congo, c'est un peu la même chose, je veux dire, c'est quand même une promenade dans une espèce de Belgique. Simplement, c'est une Belgique multipliée par 50, mais il se retrouve, Van Loo a enquêté d'abord dans un milieu de colons belges, et ces colons belges ressemblent singulièrement aux Belges moyens d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est une promenade dans une Belgique éternelle, en quelque sorte, que fait Van Loo, même si, c'est vrai, le moteur de l'intrigue, ces deux histoires qui, elles, sont typiquement congolaises pour l'époque, c'est-à-dire la disparition, ce qui l'amène d'abord, c'est la disparition d'uranium au Katanga. On sait que l'uranium a servi à fabriquer la première bombe atomique américaine, celle d'Hiroshima. Donc la bombe atomique d'Hiroshima était en fait belge. Et donc, comme on est au début de la guerre froide, là, en 48, Van Loo va évidemment se retrouver, bien malgré lui, pris entre Américains et Russes qui se disputent l'uranium de Katanga. Mais alors intervient un autre événement et d'ailleurs une autre affaire en quelque sorte qui va se mêler à celle de l'uranium. C'est les premiers mouvements indépendantistes congolais, et avec un personnage qui est justement celui qu'on va baptiser le roi du Congo, et qui est un personnage, une espèce de chef d'orchestre clandestin de la révolte des Noirs au Katanga.
Alors, vous l'avez dit, c'est l'uranium qui ne sert pas à fabriquer des cendriers, quel lapsus, mais la bombe atomique, d'où l'intérêt des Russes. On peut dire que communiste, atomiste, raciste, c'est un peu le cocktail que vous nous proposez pour remplacer la boisson préférée de votre détective, qui est la gueuse grenadine.
Oui, vous avez raison de le dire, parce qu'effectivement, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le roman est beaucoup plus long que Péril en ce royaume, c'est que tout au long de ce roman, Van Loo se promène au fin fond de l'Afrique, à la recherche évidemment de Geuse Grenadine. C'est extrêmement compliqué, mais je le dis tout de suite, c'est important, il parvient à en trouver une, finalement, à la fin du roman. Bon. Mais c'est vrai que Geuse Grenadine à part, donc il doit se contenter de bière de banane, ce qui est une maigre consolation pour lui. Vous avez raison que le cocktail qui en réalité le fait lui monte à la tête, c'est ce cocktail-là, plus nuancé peut-être, mais c'est en effet ça qui sert de toile de fond à cette visite du Congo belge de 48.
Alors il y a également d'étranges personnages qui sont les hommes caïmans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Alain Berenbaum, sur cette légende ou cette réalité d'hommes caïmans ?
Oui, donc il se retrouve, donc Van Loo se retrouve à un certain moment lorsqu'il est au fin fond du Katanga, confronté à une tribu d'indigènes qui se... des hommes caïmans. Et ça se base en fait sur des histoires tout à fait réelles, qui est que... on le voit d'ailleurs un petit peu dans Tintin au Congo. Il y a des personnages qui se... un des sorciers qui se revêt d'une peau de bête à un des moments. Mais en effet, au Congo belge, dans les années 30 surtout, il y avait des mouvements anti-belges, mais qui n'étaient pas des mouvements anticolonialistes, qui étaient plutôt des mouvements tribaux anti-blancs, qui étaient très violents et qui se déguisaient en peau de bête pour tuer non seulement les Belges, mais aussi ceux des Congolais qui collaboraient avec le pouvoir belge. Et la répression belge a été très violente. On a pendu pas mal de membres de ces tribus hommes léopards, hommes caïmans, ils revêtaient différents des frocs d'animaux, et on les a pendus dans les années 30, à titre d'exemple.
Alors, meurtre, cambriolage, disparition, c'est le programme de ce livre. Alors, on va plonger dans le programme avec un autre extrait lu que j'ai arbitrairement choisi, je pense, qui résume assez bien le livre. Voilà, on redémarre donc pour un extrait lu.
Alors oui, il va interpeller un personnage, Van Loo interpelle un personnage qui s'appelle Jacques. Ce Jacques, en fait, est un agent de la Sûreté. La Sûreté s'est effectivement installée pour la première fois à Léopoldville en 1946. Donc il y a des agents de la Sûreté belge au Congo en 46. Et c'est ce type, ce Jacques, qui a fait venir Van Loo en le considérant comme le détective qui pourra dénouer... ses problèmes, parce que lui-même ne s'entend pas avec ses collègues. Jacques, nom de Dieu, j'étais si surpris de le revoir que je ne parvins pas à formuler la moindre plaisanterie, pas même à articuler un mot. Il me prit dans ses bras et me serra contre lui. Tiens, sacré connard, Michel. Comme je voulais me libérer de son étreinte, il me serra plus fort contre lui. Je t'ai chargé d'une petite enquête sur les auteurs d'un hold-up dans un village de province, dans le but de vérifier si des militants indépendantistes ont pu monter cette opération, comme le prétendait Evil à l'origine, ou si ce dossier relève du droit commun et des simples flics, comme on me le souffle très amicalement. Or, au lieu de procéder rapidement à cette petite vérification et de rentrer à Bruxelles avant de choper la malaria, tu mets la colonie à feu et à sang. Au passage, tu montes contre toi tous les petits blancs du coin. Tu transformes une paisible partie de chasse à l'éléphant en un champ de tir. Tu sèmes dans ton sillage le cadavre de la femme d'une personnalité de la région. Tu m'obliges à faire venir Dardar, ta fiancée, à grands frais, et tu la laisses aussitôt enlever par les plus féroces sauvages de toute l'Afrique, entraînant la mobilisation de l'armée et de la police. Potferdeck, Michel, tu crois que les autorités de ce pays n'ont rien d'autre à faire que de s'occuper de toi et de ta famille ?
Voilà, alors Alain Berenbaum, est-ce que le rôle d'un romancier, c'est de nous donner des pièces d'un puzzle ? On a l'impression que ces pièces n'appartiennent pas au même puzzle, que c'est différents jeux, et au fur et à mesure du récit de l'écriture, eh bien, ces pièces de puzzle prennent leur place pour nous donner une fresque.
Je n'avais pas pensé à cette image, mais je trouve qu'elle est très belle, effectivement. On peut aussi penser à la manière dont se tourne un film. Quand on fait un film, comme on sait, le cinéaste tourne des séquences différentes qui ne sont pas nécessairement chronologiquement, qui n'apparaîtront pas chronologiquement à l'écran. Donc il va tourner des séquences différentes et puis au montage, il va prendre des morceaux, des bouts, les montes. Bon. Et un roman, c'est un peu ça, sauf qu'on... En tout cas, je les écris chronologiquement. Il y a des romanciers qui écrivent même par morceaux et puis qui réinsèrent des passages au milieu. J'en suis pas là. Mais c'est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un roman, pour moi, c'est dans ma tête, en tout cas, lorsque j'écris une succession de séquences d'images animées, exactement comme du cinéma. Et puis, c'est ainsi que je procède. Et effectivement, au moment où on l'écrit, comme vous dites, ça a un côté puzzle. Et une fois qu'on a terminé le roman, puisque quand j'écris, comme pas mal d'autres romanciers, je ne sais pas très bien où va le personnage, pas plus que va l'autre. C'est les personnages qui, une fois ayant pris corps, amènent l'intrigue à se dénouer. Et donc, j'arrive ainsi, moi-même, grâce au personnage, à savoir ce qui leur arrive. Je deviens un peu... comme je suis juriste, je vais utiliser ce mot, le greffier de mes personnages. Mais les greffiers sont très utiles. Et ce greffier que je suis, une fois que l'affaire est terminée, bon, d'abord, je suis soulagé, bien sûr, et puis je relis et je travaille beaucoup une fois que le roman, le premier jet du roman est fait. Et en effet, je remplis un peu les trous. C'est-à-dire que je ressème des petites pierres qui permettent au lecteur de deviner, s'ils le veulent, la fin de l'intrigue que moi-même, je n'avais pas deviné quand je l'écrivais. J'enlève un certain nombre de passages ou de pistes, puisqu'on est en Afrique, de pistes que j'avais esquissées, mais qui finalement n'ont rien donné, puisque mon roman était dans une autre direction, donc je les efface. Et donc, comme un puzzle, effectivement, il faut que les pièces, à la fin, tiennent ensemble. Et donc, c'est à la suite de plusieurs... réécriture qu'on arrive à ce que cet ensemble tienne plus ou moins la route.
Est-ce que parfois le romancier est frustré par rapport à la réalité historique, puisque là vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte, que ça soit Péril en ce royaume ou dans les nouvelles aventures au Congo. Est-ce que le romancier parfois a une frustration parce que justement il doit respecter l'histoire, celle qu'on nous apprend à l'école avec un grand H?
Ah non, c'est une contrainte. Les contraintes, c'est toujours extrêmement stimulant pour le roman et pour la fiction. Et donc, c'est une très bonne contrainte d'avoir des exigences, et notamment celle de l'histoire. Effectivement, il faut que ce soit crédible, que des gens qui ont vécu là, comme en Péril dans son royaume, des gens qui ont vécu cette époque, se disent « Ah oui, je retrouve... » l'esprit, l'odeur, l'image de ce que j'ai vécu à cet endroit, à cette époque. C'est une excellente contrainte, ça. Parce que pour rendre une intrigue crédible et donc pour faire de la fiction, il faut commencer par raconter la réalité et puis commencer à délirer au cours de cette réalité. Autour de cette réalité, on se rend compte ainsi, on connaît bien d'ailleurs ce phénomène, on se rend compte en partant de la réalité et puis en racontant des mensonges, c'est ce que fait un romancier, que les mensonges deviennent la vérité, évidemment.
Et même si tout n'est pas vrai, en tout cas, tout est vraisemblable. Du côté du romancier, finalement, ce qui est passionnant aussi, c'est que finalement, que ce soit vous, l'auteur, ou pour nous, les lecteurs, c'est que ce sont les innocents qui sont sans doute potentiellement les plus redoutables criminels. Ça aussi, c'est un jeu jubilatoire.
Oui, comme avocat, on le voit aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est très amusant de pouvoir jouer, en effet, ainsi le passage. Bien sûr, c'est le truc habituel du polar, de passer de l'innocent au main sale, vers le méchant qui a l'air, enfin, en tout cas, le délit de faciès qui est en fait celui du bon. Non, c'est très jubilatoire et c'est ce qui... C'est au fond la réalité aussi de la vie, qui est que personne n'est tout à fait blanc ni tout à fait noir, surtout au Congo. Et donc, c'est intéressant de faire des personnages qui ont ainsi de la chair, de l'épaisseur, avec leurs bons, leurs mauvais côtés. Et bon, les innocents, effectivement, sont généralement pas ceux qu'on pense.
Alors, la réalité de la vie, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin, qu'on vous reçoit chez Filigrane. Vous l'avez dit, c'est un polar, mais finalement, c'est également un polar sur les mystères des sentiments, parce que dans le premier tome, Péril en ce royaume, il y avait son amie Anne, qui travaille chez un coiffeur. Elle va jouer également un rôle important dans cette histoire, puisqu'elle va le rejoindre là-bas. Et finalement, pour votre détective, il comprend pas trop, finalement, quelles sont la nature des sentiments de son amie, qui finalement, on peut dire, ses sentiments de son amie, ou lui vis-à-vis d'elle, sont encore plus obscurs que l'histoire proprement dite du polar.
Oui, l'histoire sentimentale de Michel Vanloo et de Anne est effectivement très importante. Celle l'était déjà dans Péril en ce royaume. Ils formaient vraiment un duo de choc, enfin surtout elle en tout cas. Elle en valait deux, donc elle formait un duo de choc pour dénouer l'intrigue de Péril en ce royaume. Ici, comme le personnage de Jacques le raconte brièvement là, lorsque je l'ai évoqué, à un certain moment, Michel Vanloo se fait gravement blesser dans une chasse où il a presque perdu la vie, et Anne s'amène de Belgique. Et à ce moment-là, bon, le livre véritablement, enfin l'intrigue en tout cas, commence à se dénouer, puisqu'elle prend les choses en main, si j'ose dire. C'est vrai que le rapport entre Anne et Michel, j'aime beaucoup explorer ce rapport entre ces deux personnages, parce que c'est une femme indépendante, c'est une femme libre, c'est une femme moderne. Ils forment d'ailleurs un couple moderne pour l'époque, ils sont compagnons. De temps en temps, elle le trompe. J'aimais bien justement de mettre en scène ce duo de personnages qui est sans doute peu ressemblant à ceux des romans de détectives que l'on connaît des années 40.
Alors Alain Berenbaum, voyager par les livres, c'est bien. Finalement, arpenter le monde, c'est mieux sans doute. Est-ce que vous avez déjà prévu les nouvelles aventures de votre détective privé?
Oui, il devrait avoir un troisième et dernier, je pense, épisode qui se passerait cette fois-ci de nouveau en Belgique en 49 et qui achèverait alors cette espèce de trilogie sur le paysage de la Belgique de l'immédiate après-guerre.
Voilà, ben en attendant de retrouver le Bruxelles dans les années 49, donc il y a les aventures au Congo, on est en 48, le roi du Congo, c'est le titre de ce deuxième livre paru chez Pasquito Éditeur, le premier également qui était Péril en ce royaume. Alain Berenbaum, merci d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui. Vu les petits problèmes de micro, je vous propose que ceux qui ont envie de poser des questions à l'auteur se rapprochent, puisque l'auteur nous fait le plaisir également de vous le dédicacer. Sauf si, comme me dit bien Alain Berenbaum, vous avez une puissance vocale supérieure à la nôtre. Sinon, n'hésitez pas, il y a filigrane.tv, puisque c'est pour ça qu'il y a des caméras où vous pouvez suivre à nouveau, plutôt, c'est plus français, les aventures de nos auteurs présents aujourd'hui. Il y a également la newsletter, n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez des cadeaux régulièrement. Et puis également le Philibert qui est disponible à la caisse, qui sont nos coups de cœur, nos sélections des livres ici dans la librairie. Voilà, merci à vous d'être parmi nous. Merci Alain Berenbaum. Excellente fin de journée à vous tous. Merci.